Nous avons ces dernières semaines réfléchi depuis la Pâque sur la résurrection de notre foi. Nous avons réfléchi la semaine d'après sur vraiment quelles étaient les conséquences d'avoir une foi ressuscitée. Notre frère Pierre, la semaine dernière, a amené un message sur le passage de Jésus entre la Pâque et la Pentecôte. Et dans la continuité de ce que j'ai commencé au mois d'avril, ce matin, j'aimerais nous entretenir, nous faire réfléchir sur l'Église, un atelier de théologie pratique. Alors là, ne fermez pas vos oreilles. Et bon là, il y a des gros mots là-dedans. Il y a le mot théologie, c'est pas pour nous. La théologie, c'est tout simplement cette connaissance de Dieu que tout chrétien véhicule. Et la pratique, j'espère que vous comprenez que ce que nous savons, nous devons le mettre en pratique. C'est bien de savoir les choses, mais c'est... Je vous exhorte donc, dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, moi qui suis prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation dont vous avez été appelé. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul... Il a cette manière extraordinaire de préparer les choses. Et avant que son auditoire ne s'endorme, il leur dit, donc, maintenant que je vous ai expliqué les choses, nous allons passer à la pratique. Moi, j'ai fait des études techniques. Et à chaque fois, on avait d'abord le cours. Et quand, à la fin du cours, le professeur, il nous voyait en train de dessiner sur nos feuilles, etc. Il disait, maintenant, mes amis, nous allons aller dans l'atelier. Et on va voir si vous avez écouté ce que je vous ai dit. Et souvent, il y avait des surprises. Dans les trois premiers chapitres de sa lettre, l'apôtre Paul, c'est donc quand je parle des Éphésiens, explique ce que Dieu a fait pour les Éphésiens. Et là, mes amis, on est... Ah, le micro, oui, c'est vrai. Je parle dans le micro, c'est mieux. Merci. Attention. Voilà, je suis tellement emballé. Donc... Dans les trois premiers chapitres de sa lettre, l'apôtre Paul explique ce que Dieu a fait pour les Éphésiens. Et souvent, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des difficultés, notre phrase qui vient tout de suite à notre tête, « Dieu ne fait rien !» Et on oublie tout ce que Dieu a fait. Et Paul rappelle, « Vous avez des richesses cachées en Jésus-Christ. » Et il prie qu'ils aillent les chercher. Il va prier au chapitre 3 encore qu'il soit enraciné. Donc là, il les fait plus monter, il les fait descendre. Pour les Éphésiens. Il leur a parlé du plan éternel de Dieu pour la réconciliation par l'œuvre de Christ. Il se tourne maintenant, j'ai marqué notre réponse. Il n'attend pas leur réponse, il attend maintenant notre réponse. On est 20 siècles plus tard, les amis. Mais les épîtres de Paul, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Corinthiens, l'épître aux Thessaloniciens font partie de ces lettres qui ont été distribuées à l'Église il y a 20 siècles, mais qui aujourd'hui, encore au 21e siècle, ont toute leur pertinence puisqu'elles sont la parole de Dieu. Qu'allons-nous faire avec ce que Dieu nous demande au travers de cette épître? Alors, on parle toujours d'être des pratiquants. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand je demande aux gens qu'est-ce que ça veut dire pratiquer. Ben, être pratiquant, c'est venir au moins à l'église une fois par an. Ça, c'est pratiquant. Bien, ben, si c'est votre pratique, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui me sauve. Il ne s'agit pas de connaître et de comprendre ce que Paul dit, mais il faut le mettre en pratique. Il faut le vivre. L'Église, le plan parfait de Dieu, l'Église, c'est le lieu parfait pour mettre en pratique ce que Paul dit. L'Église, c'est le lieu parfait. L'Église, c'est pas un lieu. L'Église, c'est tout l'ensemble de tous les rachetés de tous les temps. Mais ils ont une mission, c'est d'être ensemble, de témoigner ensemble, de publier ensemble, d'être ensemble, de s'aiguiser ensemble. Et le meilleur moyen que Dieu nous donne ce sont nos relations les uns avec les autres. Et l'image tout à l'heure de la croix, je ne sais pas si vous avez jamais pensé à ça, hein, mais il y a deux axes dans la croix, hein, horizontal et vertical. Si je dis j'ai une communion avec Dieu, mais j'ai aucune communion avec les frères et sœurs, il y a un petit problème, le cirque passe. Je vous exhorte donc, moi qui suis prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation dont vous avez été appelés. Avec toute humilité, douceur, vous supportant avec patience les uns les autres dans l'amour. Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul Seigneur, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance de votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, au milieu de tous et au-dessus de tous. Je ne pense pas que j'ai le temps d'aller jusque-là. La vie chrétienne ne commence pas par marcher. Vous avez pris conscience de ça ? Vous avez des images de vous, bébé ? Est-ce que vous avez commencé à marcher ? Non ? Elle commence par être au moins assis. Donc bébé a grandi un petit peu déjà quand il s'assoit. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4. Voilà ce que Paul dit. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La première position que Dieu nous donne, c'est d'être assis ensemble avec lui. Waouh! Vous avez déjà réfléchi à ça? Qu'avant de vous lever et courir, il faut déjà commencer par s'asseoir. Ensuite, en marche, aucune communication avec un parti politique actuel. Verset 1, je vous exhorte à marcher d'une manière digne. Et digne de quoi? De la vocation dont vous avez été appelé. Que votre vie, dit l'apôtre, soit en harmonie avec la vocation, avec l'appel que Dieu vous a fait. Il ne s'agit pas de se rendre digne. Parce que là, ça serait une grosse erreur. Nous ne pouvons pas nous rendre dignes. De la vocation qu'on souhaiterait obtenir. Mais bien de, c'est marqué là, quoi, répondre à une vocation dont on a déjà été appelé. L'appel, c'est Dieu qui le fait. Notre appel, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a payés, c'est Dieu qui a payé. Et la chose intéressante, c'est que nous, on essaye de se rendre digne, de faire des choses. Mais nous ne pouvons pas faire les choses pour mériter Dieu. Parce que la Bible dit que nous étions morts, que nous sommes séparés, que toute tentative de faire quelque chose amène à la catastrophe. Deux conditions essentielles. En toute humilité et douceur. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, quand il nous fixe des objectifs, il nous donne les conditions. Humilité et douceur. Dans Romains 12, 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La condition pour le service de Christ, la condition pour le suivre, la condition pour avoir un bon témoignage. Elle est entourée d'humilité, parce que nous étions morts, parce que nous ne méritions que la mort. Nous n'étions pas la perle rare, le diamant parfait. Et toute douceur. Ce qui me touche en relisant les évangiles, c'est la douceur de Christ. Et ce qui me touche, c'est de trouver l'apôtre Paul, vous savez, ce tueur à gages, ce terroriste, qui au cours des années avec Christ a appris la douceur. C'était quelqu'un de piquant, c'était quelqu'un d'orgueilleux, de méchant, de légaliste. Et il va écrire « Je vous aime de l'amour d'une mère, de sa douceur ». Vous savez, nous, en tant que chrétiens, on est un petit peu comme les porcs épiques. Alors, quand on s'approche de trop, ça pique. Et puis, quand on est trop loin, on a froid. On n'arrive pas à s'approcher les uns des autres. parce que nous devons être revêtus de cette douceur que Dieu donne, de l'humilité, comme Christ. Au verset 2, il donne la nature du soutien, la patience. Ah, mes amis, vous avez déjà prié pour avoir de la patience ? Qu'est-ce qui arrive derrière ? Tout un tas d'épreuves. Le train n'est pas là, la voiture est en panne, ceux qui devaient venir à l'heure ne viennent pas à l'heure, les rendez-vous sont remis. Et là, on crie, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et là, le Seigneur, il nous regarde, il dit, t'as prié pour la patience ? Ben, c'est vrai, hein. On va continuer, hein, parce que t'en as pas beaucoup. Humilité, douceur, patience. Humilité, douceur, patience. Le Seigneur, combien le Seigneur a patienté avec nous et patiente encore. Si le Seigneur voulait que nous soyons transformés du jour au lendemain, s'il attendait de nous que nous soyons parfaits, mes amis, on ne serait pas ce matin. Aucun d'entre nous. En tout cas, moi, je ne serais pas là. Parce que le Seigneur a la patience. Le Seigneur travaille avec humilité et douceur. Dans Colossiens 3:12, il est dit « Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Wow. » Revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Pourquoi est-ce que Paul dit qu'on doit s'en revêtir ? Parce que nous ne l'avons pas naturellement. Parce que ça, c'est uniquement Dieu qui le donne. Et on doit s'en revêtir, se l'approprier quelque part. Alors, au verset 3, il va donner le moyen. Je dirais le moyen central. L'ambiance qu'il faut. Vous supportant les uns les autres dans l'amour. Il a parlé d'humilité, il a parlé de douceur, il a parlé de patience. Et au bout de ça, il dit, en fait, le moyen naturel ou surnaturel, c'est l'amour. C'est l'amour. L'humilité, la douceur, la patience sont l'émanation de l'amour, mes amis. Si je dis que j'ai de l'amour et que j'ai pas d'humilité, pas de douceur, pas de patience, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas. C'est quelque part que je ne comprends pas la relation, ni avec Dieu, ni avec mes frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens 13:4, il dit « L'amour est patient. L'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas et ne se gonfle pas d'orgueil, comme la grenouille. Hein » La grenouille, vous avez lu les fables de La Fontaine. Et alors là, il jette une phrase qui trouble. On en a parlé vendredi. Il dit « Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit. » Il y a deux types d'unité. L'unité ecclésiastique, ça veut dire l'unité d'église, entre membres, celle qui existe entre tous les membres d'une même église, qui est extérieure et visible. L'unité. On évite de se crier dessus, on évite de se taper. Quand il y a des gens du dehors, on fait comme si on était gentil. Ça, c'est l'apparence. Tandis que l'unité de l'esprit, c'est celle qui règne entre tous les membres du corps de Christ. Mais mes amis, est-ce que nous pouvons garder quelque chose qui n'existe pas ? Vous n'avez jamais posé cette question-là ? Paul, il ne dit pas de créer l'unité, de vouloir l'unité. Il dit de garder l'unité parce qu'elle existe. Une unité qui est le fruit du Saint-Esprit. Elle n'est pas en notre pouvoir de la créer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les Épîtres, Éphésiens 4:30 par exemple, on peut attrister le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5:19, on peut même l'éteindre. Et dans Éphésiens 5:18, on est appelé à en être rempli. Donc pour garder l'unité créée par l'Esprit, c'est que cette unité, elle existe déjà. Mais c'est heureusement pas nous qui l'avons créée. Heureusement. Parce qu'aujourd'hui, elle ne tiendrait plus, n'est-ce pas, si elle était humaine. Elle est surhumaine. Elle est surnaturelle, puisqu'elle vient de Dieu, et il va l'expliquer un petit peu plus loin. Un autre ingrédient que Dieu nous donne, l'humilité, la douceur, l'amour. Elle produit quoi ? La paix. Le produit, c'est la paix. On essaye toujours d'abord de faire la paix avant d'aimer quelqu'un. Mais regardez à Jésus, est-ce qu'il a fait la paix avec nous avant de nous aimer ? Non. Il nous a d'abord aimés pour créer la paix. Or nous, on a un conflit avec quelqu'un, on dit d'abord on va faire la paix, et après je vais l'aimer. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. La paix elle-même fournit le lien, ce qui nous attache, ou le lien par lequel nous devons maintenir l'unité de l'esprit. 1 Corinthiens 3:3 qui le dit. Dieu nous a donné tellement de moyens. Et cette unité, elle existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La divinité est le modèle parfait d'unité. Pas de divergence. Jésus ne va pas voir son Père en disant « Bon, ça, c'est moi qui m'en occupe, hein, t'inquiète pas. » Puis le Saint-Esprit qui arrive « Attends. Ici, j'ai autorité sur tous ces gens-là, je vais m'en occuper, laissez faire. Hein, je s'occupe de tout. » Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir l'unité de Dieu et que nous avons été créés à son image. Et Dieu nous demande de garder cette unité parce qu'elle existe. Et finalement, on essaye de créer une unité artificielle. Une unité qui fait fi de nos croyances, qui fait fi de notre amour, qui fait fi de la bonne doctrine, de la parole de Dieu. Mais c'est une unité factice, mes amis. C'est une unité humaine qui n'ira nulle part et qui ne peut mener qu'à la catastrophe. Ceux qui attendent d'être bien d'accord pour s'aimer pourront n'avoir jamais ni accord ni amour. Je répète, ceux qui attendent d'être bien d'accord pour s'aimer, est-ce que vous avez choisi votre famille ? Est-ce que vous avez choisi vos parents ? Et qu'est-ce que la Bible dit ? De les aimer. Il ne dit pas d'être en paix avec, il dit aimer. Et justement, l'amour va nous éviter d'avoir des problèmes. Mais nous, on veut toujours la paix. Et on le fait à coup de Kalachnikov. Hein. Jésus l'a fait à la croix, en ressuscitant. Ceux qui commencent par l'amour, fussent-ils d'abord de sentiments divergents, finiront par se mettre d'accord. Ceux qui commencent par l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La réconciliation, elle est au bout. Mais ça commence par l'amour. Et Dieu, Paul nous demande donc de conserver cette unité par le lien de l'amour. Parce que Dieu est amour. Et vous voyez, frères et sœurs, que cette théologie pratique, cet atelier, il n'est pas bénin, il n'est pas inutile. Il nous permet de prendre conscience à quoi nous sommes vraiment appelés à vivre ensemble. Pas de créer une unité de surface. J'appelle ça une unité commerciale. Vous savez, le sourire commercial, quand un commercial a quelque chose à vous vendre. Ah, il est extraordinairement souriant. Signez-le. Et une fois que vous avez signé, alors maintenant, je vais vous dire. Voilà à quoi vous êtes engagé pour les 40 prochaines années. Mais Dieu, il ne nous fait pas de marchandage. Dieu, il n'a pas le sourire commercial. Mais Dieu nous a offert son amour. Et il a commencé par nous aimer. On croit qu'il faut commencer par se mettre d'accord et qu'alors seulement on pourra goûter ensemble à l'amour et à la paix fraternelle. Au contraire, il faut commencer par l'amour qui produit la paix et alors seulement nous pourrons nous mettre d'accord. Il m'a paru important, frères et sœurs, de revenir sur ce principe que nous trouvons dans Éphésiens et dans toute la Bible en fait. Aussi Paul met l'emphase sur cette idée que nous devons garder quelque chose qui existe comme notre vocation, marcher d'une manière digne d'une vocation. La vocation, elle n'est pas devant, elle est derrière. L'appel, c'est Dieu qui nous l'a donné. Les objectifs dans notre vie, c'est Dieu qui les a fixés. Et à nous d'y rentrer. Et à nous de garder cela ensemble. Cette unité à laquelle il exhorte les croyants, elle existe. Dieu l'a faite. Je ne sais pas si c'est fait ou fait. ils ne font pas que la laisser paraître entre eux tout ce qui est essentiel et commun, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va terminer son texte, c'est pas dans ma diapositive, il va dire un Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et on se dit, mais comment Dieu peut être en haut, en bas et au milieu? Le Père règne au ciel, le Fils est venu parmi nous et le Saint-Esprit habite en nous. Et il y a unité. Et il y a unité. Chacun fait sa part, mais chacun est un. Et on a lu tout à l'heure dans la scène, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi, Jésus a dit, je veux qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Gardez cette unité, parce que sinon on n'est pas à l'image de Dieu, frères et sœurs. Et là, il y a un problème. Il y a, dit dans son texte, il y a un seul corps, l'Église, le plan parfait de Dieu, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Waouh ! D'un seul coup, vous avez compris, tous les un seul, d'un seul coup, ils arrivent là, pas comme un cheveu sur la soupe, on dit en français courant, mais comme l'aboutissement de la compréhension, qu'est-ce que c'est que l'unité ? L'unité, c'est pas toutes les religions qui se mettent ensemble et qui prient, chacun de leur côté pour leur Dieu personnel, mais c'est des hommes et des femmes qui ont été réconciliés avec Dieu et qui se mettent ensemble. La gloire de Dieu. Et notre mission, c'est de garder cette unité, parce qu'elle est l'image de Dieu. Parce qu'elle est, si nous ne gardons pas cette unité que Dieu nous a donnée, alors nos actions seront inutiles. Quand je donnerai mon corps à la science pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Quand je donnerai tout mon argent pour les pauvres, cela ne sert à rien. On veut faire des œuvres, mes amis. Mais si ce n'est pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, elles sont inutiles. Notre unité vient du fait que nous sommes membres de la même famille, le même corps, l'Église. Nous avons expérimenté le même salut en Christ. Nous avons la même foi, nous avons passé le même baptême. Nous avons tous le même avenir, la même espérance de la gloire. Notre unité a déjà été établie par Dieu. Vous aviez déjà vu ça ? Regardez que l'unité, ce n'est pas à nous de la faire. Elle existe. Et Dieu nous a donné le modèle. Notre modèle, c'est Dieu. Celui que nous devons imiter, c'est Christ. Celui qui a marché sur cette terre pour nous montrer comment faire, c'est Christ. Que chacun prenne sa croix et me suive. Alors, application. L'unité, j'aimerais le dire avant la fin, ce n'est pas la conformité. Il n'y a pas de clone dans l'Église. L'unité, c'est accepter de tirer dans la même direction ensemble, lié par une cause commune, même si cela veut dire que je dois céder la place. C'est discuter au lieu de se disputer pour le bien de tous. Voilà des principes, hein ? Discuter au lieu de disputer. C'est juste une lettre à changer, mais ça change tout. Tirer dans la même direction, lié par une cause commune, l'amour, la paix, le bien des autres. C'est intéressant de voir que si notre foi est ressuscitée, si notre foi est active, alors d'un seul coup, on se trouve devant tout un nouveau paysage, un autre style de vie, une autre communauté qui d'un seul coup se dit, mais et finalement, si les choses devaient changer, que faire ? Alors, mes amis, question. Est-ce que cette unité est une réalité entre nous ? Est-ce qu'elle est à l'image de ce que Jésus nous montre, de ce que Dieu nous montre ? Est-ce que cette relation Père, Fils et Saint-Esprit est la même entre nous ? C'est une bonne question, non ? Est-ce qu'on voit cette unité ? Est-ce qu'elle est visible ? Ou est-ce qu'elle est factice ? Est-ce qu'elle est commerciale ? Ou est-ce qu'elle est profonde ? Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 18, Paul leur avait donné la recette. C'était dans sa prière. il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, sa vocation, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Au ciel, il n'y a pas de notaire. Il n'y a pas un notaire qui a mis son cachet sur l'héritage que Dieu nous donne. Mais il l'a montré par Jésus-Christ et il l'a manifesté par le Saint-Esprit en nous. Parce que maintenant, nous pouvons être sûrs que nous avons au ciel un héritage qui nous attend, que cet héritage, nous en avons déjà les arts et que ça peut se manifester les uns envers les autres. Alors, pour terminer, j'aimerais nous rassurer un peu, parce que je vois que vous descendez tous un peu dans vos chaises en disant « Le pasteur, il a monté la barre très haut. » Non. Ce matin, ce n'est pas un jugement. C'est un encouragement. Parce que quand Dieu nous demande de faire des choses, il nous demande de faire des choses que lui peut nous rendre capables. Que lui, dont lui nous rend capables. Maintenant, le tout, c'est d'avoir confiance que Dieu peut nous aider. Et dans Éphésiens 3:20, on l'avait partagé à une réunion de prière il n'y a pas longtemps, il me semble. Il dit, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Oui. C'est facile. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, on le connaît, peut. Je ne sais pas si vous le voyez. Il peut. Est-ce que vous le croyez? Il peut faire. Il peut faire ce que nous pensons. Il peut faire ce que nous demandons. Il peut faire ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Et vous voyez que d'un seul coup, la prière de Paul, elle prend une autre mesure. La mesure de l'amour de Christ. J'aime beaucoup cette image d'amour de Christ. Paul avait engagé les chrétiens à mesurer l'amour de Christ et il avait donné 4 dimensions. La largeur, le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu dans sa grâce, n'est pas limité aux vigneusiens. C'est décevant. Non, parce que je ne suis pas vigneusien. Mais... La longueur. Dieu nous a choisis en arrière et Dieu nous envoie en avant l'espérance. La longueur, elle est infinie, mes amis. La profondeur de l'amour de Christ. Il a été jusqu'à mourir pour nous, d'aller jusqu'à la mort. La hauteur, il n'est pas resté enfermé dans la mort, il est monté au ciel. Et vous avez la croix. Mes amis, pour garder cette unité de la foi, pour garder ce qui existe déjà, j'aimerais qu'on prie. Parce que ces choses-là, elles vont pouvoir se manifester parce que Dieu veut nous l'accorder. Dieu nous l'a déjà préparé. Le tout, c'est peut-être qu'on en ait conscience. De mesurer, j'avais pensé, j'ai oublié ce matin, mettre un cadeau ici. Dieu, il a un cadeau pour nous chaque jour. Mais on oublie d'ouvrir ce cadeau. Et avec notre vie active, on oublie finalement de prendre cette grâce que Dieu peut faire. Mais on devrait prier pour chacun pour que Dieu puisse faire de cette prière quelque chose qui résulte par l'unité de la foi, par le lien de l'amour et le lien de la paix. Dans l'église de Vigneux, où déjà il y a tous ces prémices, mais que quelque part, Dieu nous aide à aller plus loin pour que manifestement dans cette ville, le phare brille et que la lumière brille. Amen. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier pour ta parole ce matin. Tu nous as défiés quelque part de garder l'unité de l'esprit, mais Seigneur, tu ne nous as pas défiés de créer quelque chose qui n'existe pas, d'aller là où nous ne pouvons pas aller. Mais au contraire, Seigneur, tu nous as rappelé ce matin que nous pouvions aller avec sécurité là où toi tu nous envoies. Et au Seigneur, dans ton plan magnifique, Seigneur, tu as créé l'Église, ton corps. Eh bien, Seigneur, une partie de ton corps, une partie infime de ton corps est rassemblée ce matin, tu vois, au 177 avenue Henri Barbus. Et Seigneur, si nous sommes tes enfants, nous avons bien aussi conscience que nous sommes loin encore de nous revêtir de tous ces éléments, de l'amour, de l'humilité, de la douceur, de la paix, de la patience. Alors Seigneur, j'aimerais relire cette prière de l'apôtre Paul, que cette prière soit pour chacun dans cette salle, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, les chrétiens de longue date et les nouveaux chrétiens, ceux dont la vie est en règle et ceux dont la vie n'est pas encore en règle. Afin, Seigneur, que ce soit ta marque à toi qui soit sur nous. Afin que cette tâche que tu nous as laissée ne soit pas une tâche lourde, mais un fardeau léger. Parce que tu as déjà créé ce que tu nous demandes de faire. Et c'est toi qui veux nous y amener. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, et dans toutes les générations. Mes amis, j'ai employé le mot défi. Dieu ne nous a pas défiés de créer quelque chose qui n'existe pas. Il ne nous demande pas de faire des choses qui sont insurmontables. Mais avec notre salut, Dieu a pourvu à toutes choses. Alors si ce matin, vous avez été interpellé par ce texte, et vous dites que peut-être vous n'aviez pas vraiment compris encore quel était le défi que Dieu mettait devant vous, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est bien, c'est la grande tâche, c'est la grande mission. Mais ça passe d'abord par le lien de la paix et de l'amour. Alors si ce matin il y a quelqu'un, quelqu'une qui aimerait juste que je prie pour lui, que je l'encourage, que dans mes prières journalières je puisse dire: oui Seigneur, tu vois le frère, la sœur, il ou elle a besoin de toi pour que cette réalité prenne effet, pour que tu sois glorifié dans sa vie, dans sa famille, dans son travail, dans ta ville, parce que c'est ton image que nous portons. Alors si vous avez été interpellé ce matin et que vous avez envie que je prie pour vous, je vous demande juste de lever la main, de dire: oui Jean-Claude, j'ai besoin de ça. Oui, oui, que Dieu vous aide, oui. Oui, gardez votre main levée, juste que puisse me rebondir. J'ai une mémoire poisson rouge, donc il faut que je regarde les gens. Voilà. Dieu est un Dieu puissant, mes amis. Ce que vous demandez, c'est Dieu qui va le faire. Parce que c'est à lui que vous le demandez, c'est pas à moi. C'est vers lui que vous levez la main. Oui, Seigneur Jésus, tu vois ces amis qui ont été interpellés par ce texte. Et Seigneur, tu es ce Dieu qui peut. Tu es ce Dieu qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Et nous voulons te louer. Je te remets, Seigneur, à ta grâce, ces amis. Je te demande de les encourager, de les visiter, de leur faire du bien, de les faire grandir, de les enraciner, de les fortifier, afin que ton image puisse refléter dans nos vies et dans cette ville. Au nom de Jésus-Christ.